Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la démocratie peut-elle être assimilée à un marché d'idées, s'interroge le juriste Alain Supiot. Et comment cette assimilation de la démocratie au marché a-t-elle pu se nourrir paradoxalement du New Deal? Comment, selon les économistes qui ont étudié la capture de la régulation, peut-il exister un marché de la décision réglementaire? Et quelle a été l'évolution de la jurisprudence américaine relative à la liberté d'expression et au financement de la vie politique, et avec quelles conséquences? Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, achève aujourd'hui sa grande réflexion autour des figures juridiques de la démocratie économique. De Jefferson à Roosevelt jusqu'au président Eisenhower en 1961, qui mettait en garde contre le complexe militaro-industriel, l'accaparement du pouvoir politique par la puissance économique avait été perçu comme un danger mortel pour la démocratie. Le tournant néolibéral a renversé cette conception, comme il a emporté la citoyenneté sociale. Le juriste a montré comment, dans la perspective de la gouvernance par les nombres, qui s'est progressivement imposée après-guerre, le débat a pu s'articuler en particulier sur les rapports unissant croissance et inégalité de richesse. La démocratie va dès lors s'identifier à la capacité de soutenir la croissance par une politique économique et d'en répartir équitablement les fruits par une politique sociale visant le plein emploi et la redistribution des revenus. La polarisation sur ces indicateurs a éclipsé la question du danger que représente pour la démocratie la concentration du pouvoir économique. De fait, la démocratie économique s'est trouvée privée de substance et a été redéfinie. En fin de cours, Alain Supiot notait, et je le cite, « Le vrai sujet de cette démocratie n'est pas le travailleur, mais le consommateur. L'identification du citoyen à un consommateur, qui doit pouvoir choisir librement le produit politique de son choix sur le marché électoral, marque le complet renversement des idéaux républicains qui avaient présidé aux révolutions françaises ou américaines. Il marque aussi la capture de la démocratie par l'idéologie économique. » Ce renversement posé, Alain Supiot nous a introduit à la notion de capture de la régulation, qui désigne le fait qu'une agence de régulation, chargée de faire prévaloir le bien public dans le fonctionnement d'un secteur d'activité déterminé, tombe sous la dépendance des groupes d'intérêts qui dominent ce secteur. Alors comment le sens de la démocratie s'est-il retourné? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 20 janvier 2017 pour le cours d'Alain Supiot. Aujourd'hui, la démocratie capturée par le marché.
Le pantouflage ou la corruption pure et simple ne sont pas les seuls instruments de capture du pouvoir réglementaire. Le pantouflage n'est qu'un aspect d'un phénomène plus général. Dans le cadre de ce qu'on a appelé, les économistes, la capture du pouvoir réglementaire. Et cette capture peut résulter également du financement de certaines initiatives publiques, d'une représentation officielle dans les enceintes internationales et plus largement de ce qu'on appelle le lobbying, qui permet à un groupe d'intérêt de forger l'opinion du législateur en lui fournissant des informations sur lesquelles fonder ses décisions. On estime par exemple actuellement le nombre de lobbyistes installés à Bruxelles à 30 000, c'est-à-dire autant que de fonctionnaires de la Commission. Et les deux tiers de ces lobbyistes représentent des intérêts industriels. Donc les économistes théoriciens de la capture redécouvrent sans le savoir l'analyse marxiste selon laquelle, sous le masque de la défense de l'intérêt général, l'État ne serait que l'instrument du capitalisme. Toutefois, les théoriciens de la capture ne sont pas des marxistes, ils s'en distinguent par les remèdes qu'ils préconisent pour éviter ou limiter cette capture. Ce remède ne serait pas à rechercher du côté de la lutte des classes, mais du côté de l'extension à la démocratie des recettes tirées de théories économiques que nous avons déjà rencontrées plusieurs fois, la théorie de l'agence notamment, et la théorie des jeux. Et c'est l'un des apports revendiqués, en partie par exemple, de messieurs Lafont et Tirole, dans leur article sur la capture normative. Ils concluent leur étude en soulignant qu'en mettant en œuvre la théorie de l'agence, ils sont parvenus à confirmer l'existence d'un marché de la décision réglementaire et à mieux analyser le fonctionnement de ce marché. C'est l'article que vous avez sous les yeux et qui commence donc « Notre approche affine la vue qu'il existe un marché des décisions réglementaires ». C'est donc par référence au marché et aux lois scientifiques censées présider son fonctionnement qu'il conviendrait de concevoir le bon fonctionnement de la démocratie. Nous avons ici une illustration de la façon dont l'économie peut accorder une valeur scientifique à des produits de la dogmatique juridique, puisque nous allons le voir, l'analyse des processus démocratiques en termes de marché a d'abord été le fait des juristes de la Cour suprême des États-Unis. La théorie de la capture normative n'est que l'un des effets de ce changement de base dogmatique inhérent à l'instauration du marché total et de la gouvernance par les nombres. Et donc le marché prend la place de la Grundnorm dans l'ordre juridique et le calcul d'intérêt se substitue à l'hétéronomie de la loi. Envisagée de ce point de vue juridique, la capture normative a une portée beaucoup plus vaste que le domaine de la régulation de certains secteurs d'activité économique. Elle s'étend en effet à la démocratie en tant que telle. C'est ce que montre, nous allons le voir maintenant, l'évolution de la jurisprudence américaine relative à la liberté d'expression et au financement de la vie politique. Alors, nous avons vu comment, jusqu'au New Deal inclusivement, la concentration du pouvoir économique avait été perçue comme un péril mortel pour la démocratie. La conscience de ce péril a justifié l'adoption de lois, notamment en matière bancaire, destinées à éviter cette concentration. Mais elle a aussi conduit à un accroissement corrélatif de la puissance publique qu'un autre courant doctrinal jugeait seul à même de résister au risque de la ploutocratie. Nous avons vu que c'était la tension qui a existé pendant le New Deal. Dès 1907, une loi fédérale, le Tillman Act, vint interdire le financement des campagnes électorales par les entreprises ou les banques. On adopte donc le Tillman Act qui interdit le financement des campagnes électorales par les entreprises ou les banques. Et d'autres lois intervinrent ensuite dans le même sens, dont la loi Taft-Hartley qui étendit cette interdiction aux syndicats. Et l'une des dernières expressions législatives de cette politique de contrôle du pouvoir économique dans le domaine électoral fut le Federal Election Campaign Act de 1971 qui a été complété en 1974. Destiné à réglementer le financement des campagnes électorales, cette loi définissait deux types de limites financières. D'une part, des limites à la contribution que pouvaient apporter des individus ou des associations, donc premier type de limite, des plafonds contributifs, et d'autre part, des limites aux dépenses que pouvaient engager les candidats. Donc là, la limite, le plafond porte sur la dépense, le montant d'argent qui va être dépensé. La loi de 1971 a aussi imposé des obligations de transparence et elle avait créé une agence chargée de veiller à son application, la Federal Election Commission, la FEC. La Cour suprême a été saisie d'une demande d'invalidation de l'ensemble de ces dispositions et elle y répondit en 1976 dans un arrêt Buckley contre Valeo où elle valida les plafonds contributifs, dans la mesure où ils répondaient à un objectif de lutte contre la corruption. Donc on disait, il faut éviter que certaines personnes privées très riches puissent ainsi s'acheter les faveurs des hommes politiques. En revanche, elle déclara inconstitutionnelles les dispositions relatives au plafond de dépenses. Et elle a fondé cette censure sur le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression et dont il est utile d'avoir les termes en tête, puisque nous allons voir, c'est autour de cet amendement que tourne toute la jurisprudence dont nous allons parler ce matin. Donc au terme du premier amendement, le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice, ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse, ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement, ou d'adresser au gouvernement des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. Déclarer les plafonds de dépenses contraires à ce premier amendement suppose d'assimiler la liberté d'expression, le « freedom of speech », à une liberté de dépenser son argent. D'où l'importance cruciale de cette décision pour notre sujet, puisque c'est dans ces décisions qu'on voit pour la première fois à l'œuvre l'installation en douceur du marché comme base dogmatique de la liberté d'expression. Alors, cette décision commence par un certain nombre d'assertions incontestables qui agissent sur le lecteur comme l'anesthésie sur un patient avant opération. La libre discussion des qualités des candidats aux élections est essentielle dans un régime démocratique, ça va de soi. Les citoyens doivent être en mesure de faire des choix éclairés entre ces candidats, tout le monde ne peut qu'être d'accord. La liberté de la presse et la liberté d'expression sont nécessaires au développement d'un débat public franc et ouvert, etc., etc. Une fois rappelées ces évidences pour tout ordre juridique démocratique, la Cour y ajoute, donc dans l'arrêt Buckley, un élément radicalement nouveau qui en modifie profondément la nature. Alors, lisons cet élément ensemble. Restreindre la somme d'argent qu'une personne ou un groupe peut dépenser pour la communication politique durant une campagne réduit nécessairement la quantité d'expression en restreignant le nombre de sujets débattus, la profondeur de leur exploration et la taille de l'audience atteinte. Ceci parce qu'en fait, tous les moyens de communiquer des idées dans l'actuelle société de masse requièrent de dépenser de l'argent. La distribution du plus modeste tract ou prospectus occasionne des coûts d'impression, de papier, de distribution. Les discours et les meetings supposent généralement des frais de location de salles et de publicité. La dépendance croissante de l'électorat à la télévision, la radio et autres masses médias pour accéder aux nouvelles et à l'information fait de ces coûteux moyens d'information les instruments indispensables d'une expression politique effective. Alors, ce passage est très important car vous y voyez poser une équivalence entre quantité d'argent et quantité d'expression. Et donc, on voit aussi dans ce passage à l'œuvre le processus de quantification typique de la gouvernance par les nombres qui tend à ramener toute espèce de valeur à une valeur quantifiable et si possible monétaire. La Cour réalise ainsi ce que Timothy Kooner, que j'ai cité, nomme une alchimie constitutionnelle qui consiste à métamorphoser la liberté de dépenser son argent en liberté d'expression dans un débat démocratique, autrement dit, à transformer l'argent en argument dans le processus électoral. On pourrait objecter, et telle était la position des appelants dans cette affaire, qu'une telle métamorphose contredit l'égalité entre les citoyens telle que garantie par le 14e amendement que nous avons déjà rencontré. Et la loi avait justement pour objet, sinon d'assurer cette égalité, du moins de limiter l'inégalité entre le citoyen ordinaire qui peut distribuer des tracts dans la rue et l'homme d'affaires richissime qui peut financer des campagnes électorales dans les grands médias, voire acheter et contrôler ces médias. Et ça, c'est pas le cas seulement aux États-Unis. Mais cet argument est écarté par la Cour. Donc, là encore, lisons ensemble. Bien que la loi ne vise pas les idées exprimées par les personnes ou les groupes concernés par ces dispositions, Elle a notamment pour objet d'égaliser la capacité relative de tous les électeurs d'influencer les résultats du vote en fixant un plafond aux dépenses de communication politique des individus ou des groupes. Et la Cour suprême enchaîne, les limitations de dépenses prévues par la loi représentent une restriction substantielle, et pas seulement théorique, de la quantité et de la diversité de l'expression politique. L'idée que le gouvernement puisse restreindre l'expression de certains éléments de notre société afin de donner un poids relatif plus grand à la voix des autres est tout à fait étrangère au premier amendement qui a été conçu pour assurer la dissémination la plus large possible d'informations provenant de sources diverses et antagonistes. Donc, dès lors qu'il est utilisé pour défendre ses opinions, l'argent se trouve, à partir de cet arrêt Buckley, confondu avec ses opinions. Il doit donc obéir au même régime juridique, en sorte que toute entrave à sa dépense enfreint la liberté d'expression garantie par le premier amendement. Cette alchimie est rendue possible par le paradigme auquel Lafont et Tirole et les autres théoriciens de la capture réglementaire attribueront plus tard une valeur scientifique, qui consiste à subsumer la démocratie sous le concept de marché, qu'il s'agisse de marché des idées, de marché électoral ou de marché des normes. De fait, quelques années après l'arrêt Buckley, le père de l'analyse économique du droit, Richard Posner, dont nous avons plusieurs fois rencontré la figure éminente, décrira crûment l'élaboration de la loi comme un processus marchand. Je traduis à nouveau ce passage d'un article de 1975. « Dans la version économique de la théorie du gouvernement, en termes de groupe d'intérêt, la législation est fournie à des groupes ou des coalitions qui surenchérissent sur des rivaux également en demande d'une législation favorable. Le prix offert par le groupe gagnant est déterminé à la fois par la valeur de la protection législative de ses membres et par sa capacité à surmonter les problèmes de passagers clandestins qui sont le fléau des coalitions. Le paiement prend la forme de contributions aux campagnes électorales, de votes, de promesses implicites, de faveurs futures et parfois de pots de vin illégaux. Bref, la législation est vendue par le législateur et achetée par les bénéficiaires de la législation. Donc nous avons ici une théorisation de l'activité gouvernementale comme un marché. C'est à la même époque que Ronald Coase publia l'article séminal que nous avons déjà rencontré, enfin il y a plusieurs années, c'est pour les fidèles auditeurs, intitulé « The Economics of the First Amendment, the Market for Goods and the Market for Ideas » que nous avons donc déjà commenté. Et selon Coase, vous vous en souvenez, il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux types de marchés. Et il faut donc user des mêmes outils économiques pour décider des politiques publiques à leur égard. Mais cette idée d'assimiler la démocratie au marché est en réalité plus ancienne. Sa première apparition, pour autant que j'ai pu la repérer, n'est pas due à des économistes mais à un éminent juriste, puisqu'elle a d'abord été avancée aux États-Unis par Justice Holmes dans son dissent le plus fameux qui avait été rendu dans l'arrêt Abrams en 1919. Alors voilà ce que écrit Holmes. Lorsque les hommes réalisent que beaucoup de croyances pour lesquelles ils se battent disparaissent avec le temps, plus encore que dans les croyances qui fondent leur propre conduite, ils peuvent en venir à croire que le bien ultime auquel ils aspirent peut être mieux atteint par le libre commerce des idées, que le meilleur test de la vérité d'une pensée est d'être mise en concurrence sur le marché, et que la vérité est le seul terrain sur lequel leurs désirs peuvent être exaucés avec certitude. Ceci, en tout cas, est le principe de notre Constitution. C'est une expérience, de même que toute la vie est une expérience. Rendu en application de la loi réprimant l'espionnage, cet arrêt Abrams concernait la condamnation de militants politiques ayant manifesté contre l'engagement américain dans la Première Guerre mondiale. On peut noter, à la fin de ma citation, la référence à l'experiment
C'est une expérience, de même que toute la vie est une expérience, qui était chère à John Dewey et qui explique peut-être en partie le ralliement de Brandeis à ce dissent. Mais le point le plus remarquable est l'argument de Holmes consistant à déduire du libre commerce des idées l'affirmation selon laquelle la compétition sur le marché serait le critère de la vérité d'une pensée. Nous avons déjà eu l'occasion, au début de ce cours, d'évoquer l'ambivalence de la notion de commerce chez Montesquieu. Elle peut désigner aussi bien la conversation ou le débat que l'échange de marchandises. Ici, dans ce dissent, le premier sens est rabattu sur le second et les idées ou opinions assimilées à des marchandises dont le prix, comme celui de toute marchandise, résulte de la loi de l'offre et de la demande. Selon Holmes, cette assimilation des idées et des marchandises serait consacrée par le premier amendement de la Constitution américaine. Une telle assimilation avait peut-être, pour Holmes, une valeur seulement métaphorique. Mais avec l'arrêt Buckley, elle a acquis une valeur juridique. Toutefois, dans cet arrêt Buckley, qui a une importance séminale dans ce retournement de jurisprudence, c'est à partir de ce moment qu'on assimile quantité d'argent à quantité d'expression. Donc on installe le paradigme de la démocratie comme marché des idées. Toutefois, dans cet arrêt Buckley, l'accès à ce marché électoral semblait encore restreint aux individus et aux groupes politiques, tels que les partis ou les associations. Un pas supplémentaire vers la capture de la démocratie par l'économie sera franchi en 1978 par la Cour suprême, dans un autre arrêt très important dans ce que nous étudions ce matin, qui est l'arrêt First National Bank contre Pelotti, qui pour la première fois a étendu aux entreprises la liberté d'expression garantie aux citoyens par le premier amendement, puisque Buckley avait interdit, c'était seulement les plafonds de dépenses, mais pas les plafonds contributifs. Dans cet arrêt Pelotti, le litige portait sur une loi de l'État du Massachusetts qui avait interdit l'usage, je cite, « de l'argent des entreprises pour financer des campagnes destinées à influencer le résultat de référendums, hormis le cas où les intérêts propres de l'entreprise ne soient directement affectés ». Donc, on interdit aux entreprises de financer des campagnes, sauf s'il y a un lien direct entre leur activité et le sujet du référendum. En l'espèce, il s'agissait d'un référendum qui visait à accroître la progressivité de l'imposition des revenus, donc à imposer davantage les revenus les plus élevés. Et un certain nombre d'entreprises, c'est-à-dire derrière les entreprises de chefs d'entreprise, il faut quand même bien le reconnaître, dont la First National Bank, Gillette, Digital Equipment Corporation, contestèrent la constitutionnalité de cette interdiction en arguant de la violation de la liberté d'expression qu'elle prétendait tenir du premier amendement. Donc c'est la première fois où les entreprises réclament l'application pour elles de la liberté d'expression comme à des citoyens ordinaires. Or, il se trouve qu'un nouveau membre venait d'être nommé par le président Nixon à la Cour suprême, qui est M. Lewis Powell. Lewis Powell est un ancien membre du conseil d'administration de Philip Morris, et était un contempteur du New Deal. Il était connu pour avoir rédigé en 1971, en tant qu'avocat commissionné par la Chambre de commerce des États-Unis, un mémorandum qui a d'abord été secret, mais ensuite ça a été un secret de Polichinelle, il a circulé, on le trouve sur Internet, intitulé « Attack on the American Free Enterprise System ». Et dans ce mémorandum, il incitait les grandes entreprises à intervenir, je cite, avec agressivité et détermination dans la sphère politique et judiciaire. En fait, c'est un Powell était un admirateur de la pensée de Hayek et plus généralement des Chicago Boys. Il considérait que le New Deal avait conduit à une emprise tout à fait démesurée et dangereuse de l'État sur les affaires économiques et il fallait que les entreprises passent à la contre-offensive vis-à-vis de cette extension de l'influence de l'État. Alors Powell ne faisait donc pas mystère de son souhait de voir les grandes entreprises s'engager dans l'arène politique pour lutter contre l'État social, qu'il voyait donc comme le fourrier du socialisme et du totalitarisme. En revanche, il se fit prier pour être nommé à la Cour suprême, car cela supposait qu'il renonce à ses activités d'avocat beaucoup plus lucratives de juriste d'entreprise. Mais enfin, il a fini par céder et entrer à la Cour suprême en 1972. Et c'est donc lui qui rédigea dans l'arrêt Bellotti l'opinion majoritaire qui a étendu aux sociétés anonymes la liberté d'expression garantie par le premier amendement. Donc, lisons le texte de cet arrêt. « Si les orateurs en cause, dit la Cour suprême, n'avaient été des entreprises, nul n'aurait prétendu que l'État pouvait faire taire ce qu'elles entendaient exprimer. Cette expression est de celles qui sont indispensables au processus de décision dans une démocratie, et ceci n'est pas moins vrai lorsqu'elle procède d'une entreprise plutôt que d'un individu. La valeur intrinsèque d'une parole au regard de sa capacité à informer le public ne dépend pas de l'identité de sa source, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association, d'un syndicat ou d'un individu. » Alors, cet arrêt Bellotti a été rendu à une très courte majorité. Vous connaissez le système au sein de la Cour suprême, donc on vote et puis il suffit d'une majorité simple. Il a été rendu, celui-là, par 5 voix contre 4. C'est très intéressant dans ces cas-là de regarder ce qu'ont dit les juges qui auraient mis des dissents. Ces juges n'ont pas remis en question le paradigme du marché des idées. C'est une chose qui est tout à fait frappante, c'est-à-dire qu'en fait, ils acceptent le paradigme de l'arrêt Buckley, disant « oui, la démocratie, il y a un marché des idées ». Seulement, ils font valoir que l'État, en tant que garant du bon fonctionnement de ce marché, peut légitimement intervenir pour limiter les dépenses engagées par les entreprises qui y défendent leurs intérêts. Selon ces juges minoritaires, en effet, les corporations, donc les sociétés commerciales, ne peuvent être assimilées sans abus à des personnes physiques. Alors, c'est ce qu'écrit, par exemple, dans l'un des dissents, Justice Byron White. Jusqu'à quel point peut-on admettre que ces personnes juridiques, que sont les sociétés, les entreprises, sont assimilables à des personnes physiques dans le champ de la démocratie? La réponse donnée par White est clairement négative. Pour la raison suivante, alors je cite, je vous traduis. « Les sociétés anonymes sont des entités artificielles créées afin de servir certains buts économiques. Pour faciliter la réalisation de ces fins, des règles spéciales relatives à des questions telles que la responsabilité limitée, la vie perpétuelle et l'accumulation, la distribution et la taxation de capitaux leur sont normalement appliquées. Les États ont doté les sociétés anonymes de tels attributs afin d'augmenter leur viabilité économique et donc de renforcer l'économie en général. Il a cependant été reconnu depuis longtemps que le statut spécial de ces sociétés les a mises en situation de contrôler de grandes quantités de pouvoirs économiques qui peuvent, s'ils ne sont pas réglementés, dominer non seulement l'économie, mais aussi le cœur même de notre démocratie, c'est-à-dire le processus électoral. » Donc vous voyez dans cet argument la reprise de cette très vieille idée qu'on a vu courir depuis Jefferson, c'est-à-dire la concentration du pouvoir économique est potentiellement une menace pour la démocratie. Et donc White poursuit, « L'intérêt des États qui ont restreint les activités politiques des sociétés commerciales est d'empêcher les institutions qui ont été autorisées à accumuler des richesses au moyen d'avantages spéciaux consentis par les États pour certaines fins économiques, d'utiliser cette richesse pour acquérir un avantage injuste dans le processus politique, spécialement lorsque, comme en l'espèce, la question en cause n'a pas de lien matériel avec l'objet de la société. » Et ça se termine par l'affirmation suivante, « L'État n'est pas obligé de permettre à sa propre créature de le dévorer. » Évoquant les déboires du docteur Frankenstein, cette dernière remarque résume fort bien le danger mortel que fait courir l'analyse économique lorsqu'elle prend les fictions juridiques pour des réalités. La personnalité juridique des entreprises est un simple instrument mis à la disposition des entrepreneurs pour développer une activité jugée profitable à la collectivité. Cet instrument leur permet tout à la fois de mobiliser d'énormes richesses, de limiter leurs propres responsabilités et de faire échapper leur entreprise à leurs conditions de mortel. Il ne doit donc être utilisé, cet instrument, que dans les limites précisément fixées par la loi limite qui subordonne l'usage de cet instrument au respect d'autres règles visant à assurer la liberté, la sécurité et la solidarité au sein d'une société donnée. Faute de quoi, selon Justice White, qui se réfère ici implicitement aux leçons de Brandeis ou Roosevelt, ce sont les bases mêmes de la démocratie américaine qui sont menacées de disparaître. Et ce même argument se retrouve dans le dissent de Justice William Rehnquist. Alors, lui, il est important, je le cite, parce que c'est lui qui va ensuite présider la Cour suprême pendant quelques années, qui écrit, on trouve un peu le même argument, « Un État accorde à une société commerciale les faveurs d'une vie potentiellement perpétuelle et d'une responsabilité limitée pour augmenter son efficacité comme entité économique. » On peut raisonnablement en conclure que ces privilèges si bénéfiques dans la sphère économique posent des dangers spécifiques dans la sphère politique. Les États peuvent raisonnablement craindre que les sociétés anonymes usent de leur pouvoir économique pour étendre leurs privilèges au-delà de ce qui leur a été accordé. Je suis enclin à penser que toute espèce d'organisation à laquelle l'État confère des privilèges particuliers ou des immunités différentes de celles des personnes physiques sont sujettes à des réglementations de ce type. Alors ça se termine, nous sommes aux États-Unis, par une référence religieuse. Toutes les personnes physiques qui doivent leur existence à un souverain plus élevé que la République demeurent aussi libres qu'avant de s'engager dans la vie politique. C'est-à-dire il y a une différence entre l'être humain qui doit sa liberté au créateur et les entreprises qui doivent leur liberté et leurs droits simplement à un État séculier. La menace que font peser les sociétés commerciales sur la démocratie ne procède pas seulement de leur puissance financière et de leur immortalité relative. En effet, si on veut bien y réfléchir en juriste, à la différence des personnes humaines, chez qui la générosité et l'altruisme le disputent à la cupidité et à l'égoïsme, mais la tension existe en chacun de nous, les sociétés commerciales ne sont, par construction, mus que par la poursuite de la maximisation de leurs profits. Les lois qui leur imposent des contraintes d'intérêt général, d'ordre environnemental, social ou fiscal, sont donc spontanément perçues par elles comme des entraves dont elles cherchent à se libérer. C'est pourquoi, à la différence d'autres personnes morales, comme les associations, les syndicats ou les partis politiques, leur utilisation doit être fermement restreinte à la fonction qui tout à la fois justifie et limite leur existence juridique. Il en va, en somme, des sociétés anonymes comme des centrales nucléaires ou des avions, bienfaisantes tant que leur fonctionnement obéit à des règles et des contrôles minutieux. Elles sont éminemment dangereuses si on prétend les affranchir de ces règles et contrôles pour améliorer leur rendement. À la faveur des changements de majorité au sein de la Cour suprême, l'évolution jurisprudentielle engagée par les arrêts Buckley et Bellotti a connu un coup d'arrêt dans la période suivante, notamment sous la présidence donc de Justice Rehnquist de 1986 à 2005. Dès 1982, l'arrêt FEC contre National Rights to Work Committee mis en garde contre le fait, je cite, que les richesses considérables amassées à la faveur des avantages particuliers accordés aux sociétés commerciales ne doivent pas être converties en trésors de guerre utilisables pour créer une dette politique chez les législateurs bénéficiant de leurs contributions. Les arrêts Austin en 1990 et McConnell en 2003 s'inscrivirent dans cette ligne et jugèrent conformes à la Constitution les lois adoptées pour tenter d'endiguer l'influence financière grandissante des grandes entreprises sur la sphère politique. Alors, faute de temps, je vais résumer très brièvement ce moment d'évolution de la jurisprudence, donc ces décisions Austin et McConnell. L'arrêt Austin a repris l'argumentation que nous venons de voir, qui avait été avancé par White et Rehnquist, pour critiquer l'arrêt Bellotti. Et les sociétés anonymes, affirment cet arrêt, étant une créature du législateur, peuvent et doivent être réglementées par lui. Je cite, « Non seulement les privilèges que leur consent l'État permet aux sociétés anonymes de jouer un rôle dominant dans l'économie nationale, mais il leur permet aussi d'utiliser les ressources accumulées sur le marché économique pour obtenir un avantage injuste sur le marché politique. Donc, vous voyez, on reste dans le paradigme du marché, mais on dit il faut réglementer ce marché. La disposition de ces ressources peut conférer à une entreprise une présence politique redoutable, quand bien même le pouvoir économique de l'entreprise ne reflèterait pas le pouvoir de ses idées. Nous avons par conséquent reconnu que l'intérêt impérieux du gouvernement à prévenir la corruption l'autorise à restreindre l'influence de trésors de guerre politique empruntant une forme sociétaire. Alors, se plaçant toujours sur le terrain du « marketplace of ideas », cet arrêt admettait donc que le gouvernement puisse intervenir pour assurer son bon fonctionnement en interdisant des distorsions de concurrence, d'une façon comparable, au fond, aux lois antitrust sur les marchés des biens et services. Une telle réglementation avait en effet pour objet de prévenir, je cite, toujours le même arrêt, les effets corrosifs et de distorsion causés par d'énormes concentrations de richesses dont l'accumulation est rendue possible par la personnalité juridique des entreprises sans lien significatif avec un soutien du public pour les idées politiques qu'elles défendent. Il y a l'argument dans ces arrêts, enfin, je n'ai pas le temps de vous expliquer, selon lequel aussi c'est un détournement de l'argent. Si vous donnez les actionnaires qui ont investi dans Philip Morris ou dans Gillette, par exemple, ne partagent pas forcément les idées politiques des dirigeants. Donc, il y a l'idée qu'il y a un détournement des richesses dont la concentration a été permise. Quant à l'arrêt McConnell, il a reconnu la constitutionnalité du Bipartisan Campaign Reform Act de 2002, dit aussi loi McCain-Feingold, qui limitait les donations politiques hors campagne électorale. Alors, ces donations politiques hors campagne électorale, c'est ce qu'on appelle la soft money. Et il réglementait également les publicités électorales indirectes. Donc, vous voyez, on a une période, en fait, la période où la Cour est présidée par Rehnquist, où il y a un coup d'arrêt. On conserve le paradigme de la démocratie comme marché, mais on admet à nouveau que les États ou l'État fédéral puissent intervenir pour réglementer ce marché. Mais ce coup d'arrêt ne fut que provisoire, et toute cette construction juridique des années 90-2000 a été, on peut dire, dynamitée par les néolibéraux lorsqu'ils retrouvèrent la majorité à la Cour suprême après la nomination à sa présidence de l'actuel Chief Justice John Roberts. Et ce renversement de jurisprudence est intervenu en 2010 dans l'arrêt très fameux Citizens United, qui tira toutes les conséquences logiques de l'assimilation de la démocratie à un marché des idées qui doit demeurer libre de toute intervention législative. Alors, cet arrêt, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il a créé une grande émotion politique. Il a été publiquement critiqué par le président Obama en face des membres de la Cour suprême, dans une séance qui était où on voyait un des juges marmonner que ce n'était pas vrai, ce que disait Obama. Alors, cette affaire, techniquement, c'est assez compliqué. Donc, j'essaie d'aller au plus simple. Hein. C'est assez compliqué parce que le dispositif juridique en cause l'était. Cette affaire concernait une association à but non lucratif, mais qui était lourdement financée par des intérêts privés, puisque son budget annuel était de l'ordre de 12 millions de dollars. Et elle souhaitait diffuser gratuitement, à l'occasion des primaires démocrates de 2008, un documentaire intitulé « Hillary », qui était en fait une charge contre la candidate Madame Clinton. Sous l'empire de la loi McCain-Feingold, les entreprises n'étaient pas privées du droit de soutenir certaines options politiques, mais elles ne pouvaient directement intervenir pour ou contre un candidat déterminé dans la période précédant immédiatement les élections. Et leur intervention dans ce contexte devait prendre la forme de comités ad hoc dont les dépenses étaient limitées et le fonctionnement surveillé par la FEC, par l'Agence de contrôle électoral. Ce sont ces limites de dépenses que se contentait de contester l'association Citizen Union. Mais les cinq juges conservateurs de la Cour suprême, qui étaient Justice Roberts, Alito, Scalia, Thomas et Kennedy, se saisirent de cette affaire pour renverser les jurisprudences Austin et McConnell. Là encore, je n'entre pas dans les détails, mais ils auraient pu répondre à l'argument des appelants sans faire tomber toute la jurisprudence extérieure. Mais ils ont au contraire saisi cette opportunité pour revenir à la logique qui avait été engagée par les arrêts Buckley et Bellotti. Et donc, pour interdire toute espèce d'intervention sur le marché des idées autre que des obligations de transparence. L'attendu principal, le gouvernement peut réglementer l'expression politique, des entreprises par des obligations de responsabilité et de transparence, mais il ne peut prohiber cette expression. Donc, cet arrêt va au bout de la logique des arrêts Buckley et Bellotti, et il réaffirme les deux principes inhérents à l'analyse de la démocratie comme marché des idées. Le premier principe, c'est l'équivalence entre quantité d'argent et quantité d'idées. Toute réduction de la quantité d'argent dépensée à des fins de propagande politique vaut dès lors réduction de la quantité d'expression politique et est présumée restreindre le nombre des sujets discutés, la profondeur de leur discussion, l'ampleur de l'audience atteinte. Deuxième principe, c'est celui de l'égalité de traitement des personnes morales et des personnes physiques en matière de liberté d'expression. Renouant avec l'arrêt Bellotti et écartant l'analyse fonctionnelle de la personnalité morale qui était défendue par White ou par Rehnquist, l'arrêt Citizens United y voit des speakers comme les autres. Je vous traduis le passage que vous avez sous les yeux. Indépendamment du but ou de l'effet de dispositions réglementaires, le gouvernement peut enfreindre la Constitution lorsqu'il use de la loi pour désigner des locuteurs privilégiés. En s'arrogeant le droit de retirer le droit de parole aux uns pour le donner aux autres, le gouvernement prive les personnes ou les catégories défavorisées du droit de s'exprimer pour s'efforcer d'établir la valeur, le statut et le respect des opinions exprimées. Le gouvernement ne peut légitimement user de ce moyen pour priver le public du droit et du privilège de déterminer par lui-même quelles opinions et quels locuteurs méritent considération. Le premier amendement protège la parole et les locuteurs et les idées émanant de chacun. Alors, cette opinion majoritaire a été rédigée par Justice Kennedy. Dès lors, toute restriction à leur expression dans le débat public constitue une censure incompatible avec les dispositions du premier amendement. D'où le renversement complet de la jurisprudence Austin, que nous venons de voir, qui avait validé une telle restriction. Là aussi, je vous traduis. L'arrêt Austin perturbe le libre marché des idées protégé par le premier amendement. Il autorise le gouvernement à bannir l'expression politique de millions d'associations de citoyens. La censure à laquelle nous avons aujourd'hui affaire a un large champ d'application. Le gouvernement a muselé les voix qui représentent le mieux l'intérêt économique national. Quand le gouvernement cherche à user de ses pleins pouvoirs, y compris du droit pénal, pour décider où une personne peut s'informer ou à quelle source douteuse elle ne doit pas accéder, il recourt à la censure pour contrôler la pensée. Ceci est illégal. Le premier amendement affirme la liberté de penser par nous-mêmes. Reprenant à son compte une opinion dissidente de Scalia dans l'arrêt McConnell, la Cour suprême n'hésite pas ici à affirmer que la voix des grandes entreprises, vous avez noté ce passage, est celle qui représente le mieux l'intérêt économique national. Donc, vous voyez que dans ce même arrêt, les grandes entreprises sont présentées comme des personnes défavorisées, et ce sont pourtant celles qui représentent le mieux l'intérêt économique national. Ceci après avoir invoqué le principe d'égalité pour leur reconnaître les mêmes droits d'expression que les citoyens ordinaires. Donc, on peut dire qu'aucune différence ne doit être faite entre la voix d'un simple citoyen et celle d'une entreprise, mais qu'il faut tout de même bien reconnaître que la voix des entreprises est la meilleure, ce que les canonistes auraient appelé la major pars de l'électorat. Je pense qu'ils se retourneraient dans leur tombe, les canonistes, s'ils me voyaient les invoquer pour cette cause douteuse. On pourrait le dire peut-être mieux avec les mots d'Orwell dans La ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors, j'en arrive à la conclusion de cette première année de cours. Nous avons parcouru une boucle cette année. Avec cet arrêt Citizen Union, la boucle est bouclée depuis les origines de la démocratie américaine, dont l'économie politique a été complètement retournée en son contraire. L'interprétation du principe constitutionnel de liberté d'expression adopté par la Cour suprême est en effet le révélateur juridique d'un changement de fond dont la sociologie politique la plus rudimentaire pourrait aussi témoigner. Les États-Unis viennent d'élire, en la personne de M. Donald Trump, un milliardaire qui s'est entouré de milliardaires, puisque la richesse cumulée de ses membres atteint... Alors, les estimations sont très variables. Je suis allé voir Forbes, qui est la ressource la plus fiable, qui estime à environ 14 milliards de dollars, soit plus que le patrimoine cumulé du tiers des ménages américains les moins fortunés. Ceci sans compter son conseiller spécial pour la réglementation, Carl Icahn, dont le parcours a inspiré le film Wall Street et qui est à lui seul à la tête d'une fortune qui est estimée à 18 milliards de dollars. Donc, de Jefferson à Eisenhower, en passant par Brandeis, Roosevelt, l'accaparement du pouvoir politique par la puissance économique avait été perçu comme un danger mortel pour la démocratie américaine. Conformément aux vues qui étaient déjà celles des Grecs, que nous avons rappelées, ou de Rousseau, ou de Montesquieu, on considérait que pour demeurer bienfaisant, l'esprit de commerce devait rester cantonné dans la sphère marchande et qu'il fallait en préserver la sphère politique. Mieux, on considérait que dans son intérêt même, la sphère marchande devait rester légalement subordonnée à la sphère politique, qui, en régime démocratique, exige une certaine égalité des richesses. Nous avons retracé cette année l'histoire longue de cette économie politique de la démocratie jusqu'au renversement dont elle a fait l'objet depuis le tournant néolibéral. Et le levier de ce renversement a été l'assimilation de la démocratie à un marché des idées. Depuis ses origines antiques, la démocratie avait toujours été pensée comme une construction institutionnelle fragile qui sépare et articule soigneusement trois dimensions de la vie de la cité ayant chacune leur lieu et leurs règles propres. Ces trois dimensions sont l'assemblée politique, sphère de la délibération de l'intérêt public, le marché, sphère de la négociation des intérêts privés, et en troisième lieu, le sacré, la religio au sens juridique premier, sphère d'une référence dogmatique qui soit tout à la fois source de sens et garante du crédit de la parole, qu'elle soit commerciale ou politique. Alors, ainsi conçue, la démocratie, alors ça, c'est son versant institutionnel, mais elle exige, et ça aussi nous l'avons vu tout au long du cours, pour perdurer, l'institution d'un démos, d'un peuple de citoyens, dont les membres réunissent les trois conditions correspondantes à ces données institutionnelles, les trois conditions suivantes. Première condition, une formation et une éducation qui les rendent capables de distinguer l'intérêt public de leurs intérêts privés. Nous avons vu à quel point la paideia chez les Grecs, la vertu chez Cicéron, etc., étaient présentées comme des, ou chez Montesquieu, comme des éléments fondateurs de la démocratie. Deuxième condition, une indépendance économique par le travail, en sorte que les citoyens ne soient pas séparés par de trop grandes inégalités de fortune, ni asservis les uns aux autres. C'est la citation de Montesquieu que nous venons de voir, ou bien je vous rappelais ce que nous avons dit sur le souci, jusqu'à la fin du XIXe siècle, du mouvement du travail aux États-Unis, de promouvoir plutôt le petit travail indépendant. Et la méfiance du salariat vue comme une forme perverse de paraservitude. Et troisième condition qui est attendue de ces citoyens, c'est une éthique de la vérité, c'est-à-dire le courage de dire ce que l'on pense et de se confronter aux pensées des autres dans des assemblées de paroles visant à s'accorder sur ce qui est et sur ce qui doit être. Et pour qu'il y ait assemblée de parole, il faut que tous les membres de cette assemblée partagent cette éthique de la vérité. Cette éthique, c'est celle que Foucault, qui, se fondant sur une interprétation du théâtre classique des Grecs, a nommé la bonne parésia, le dire vrai. Donc c'est le discours vrai, la parésia, la vertu qui fait que vous avez le courage de dire vrai, de dire ce que vous pensez vraiment. La bonne parésia se définit toujours, et y compris chez Foucault, par opposition à la mauvaise. C'est celle qui en prend l'apparence pour mieux tromper le public. C'est le parler cru des démagogues dont parle Foucault, mais c'est aussi cet abus de la parole que nous avons déjà vu dénoncé par Giambattista Vico comme barbarie de la réflexion et calomnie de la vérité, c'est-à-dire le parler faux des sophistes, animé non du souci de la vérité, mais de celui de séduire les masses par des discours captieux. Ce qu'on a justement désigné lors de la récente campagne électorale américaine par un mot consacré, le Oxford Dictionary Word of the Year pour 2016, qui est le post-truth politics, la politique de la post-vérité. Mais les découvertes des sciences humaines sont rarement autre chose que des redécouvertes. Et Foucault ou Bernanos ne font ici que redécouvrir des faits déjà observés depuis longtemps. Ils redécouvrent avec leurs mots propres le rôle nodal de ce que de Cicéron à Vico et Montesquieu, en passant par Placentin, là aussi vous vous souvenez peut-être du temple de la justice de Placentin, toute une lignée de juristes a nommé les vertus civiques, et dont nous avons déjà rencontré la liste dressée par Cicéron dans le De Inventione, son traité sur la rhétorique, que nous avons étudié lors du cours 2014-2015 sur la justice sociale. Donc ses principales vertus sont religio, pietas, gratia, vindicatio, observantia, et donc le dernier, veritas. La parésia étudiée par Foucault, c'est la veritas latine, vertu indispensable au fonctionnement des assemblées de parole régies par un droit de parole égal, par l'iségoria, et qui sont la substance des institutions démocratiques. Parler ici de vertu a le mérite de souligner que les citoyens doivent être individuellement et collectivement animés par le parler vrai pour que la démocratie fonctionne. Animés, c'est-à-dire éduqués, institués, au sens des instituteurs, dans le respect de la vérité. La parésia n'est donc pas, comme l'écrit Foucault, indépendante par rapport à la politeia, entendue comme un cadre juridique institutionnel de la démocratie. En fait, Foucault, toujours mal à l'aise avec la question juridique, il dément lui-même cette idée d'indépendance en commençant par observer très justement que la parésia est quelque chose dont la place est garantie et définie par la politeia. Car s'il faut bien du courage pour parler vrai dans une assemblée démocratique, et tous ceux d'entre vous qui ont assisté à des assemblées de parole dans leur fonction professionnelle savent de quoi je parle, ce courage n'est pas le même que celui exigé du conseiller du prince, du résistant à l'occupation, du dissident soviétique ou du prisonnier du goulag immortalisé par exemple par Chalamov dans les récits de la Kolyma. Dans ce dernier cas, le risque est la mort. Et la vertu requise n'est pas seulement la veritas, mais aussi, ce que nous avons dans la liste que vous avez sous les yeux, la vindicatio, c'est-à-dire le courage non seulement de parler vrai, mais d'intervenir en défense et de dénoncer l'injustice. Sans même évoquer des situations aussi extrêmes, il est assez évident que le courage exigé pour parler vrai n'est pas le même dans des institutions non démocratiques qui reconnaissent bien à tous la qualité de sujet de droit, mais assignent au plus grand nombre une place subordonnée qui réduit ou supprime leur liberté de parole. C'est évidemment le cas de l'entreprise, sur lequel nous reviendrons longuement l'an prochain. Méconnaître la dimension institutionnelle du parler vrai conduit aux confusions actuelles consistant à assimiler négociations collectives et démocratie dans l'entreprise. Là où il y a un rapport de dépendance ou de subordination, Il ne peut pas y avoir iségoria, droit égal à la parole. Dès lors qu'on écarte ce contexte institutionnel, qu'on voit dans l'individu le seul agent du parler vrai, on est conduit à penser faussement l'entreprise sur le modèle d'une politéia démocratique. Le risque est alors de faire de la négociation collective un instrument de soumission collective. Nous y reviendrons donc l'an prochain lorsqu'il s'agira de comprendre les libertés collectives inventées en droit du travail et les questions spécifiques soulevées par l'application de l'idée de démocratie économique à l'entreprise. Pour conclure le cours de cette année en termes plus généraux et plus abstraits, disons que dans les assemblées de parole, instituants et institués sont les deux faces d'une même médaille. Le sujet politique, capable de parésia, ne surgit pas de nulle part. Il est habité par les institutions qu'il contribue à faire vivre. Il faut qu'il soit ainsi institué par le droit pour tenir ce type particulier de discours de vérité dont la démocratie se nourrit. Il faut donc renoncer ici à tout déterminisme et admettre que le cadre juridique tout à la fois imprime et exprime un certain état de la société. C'est ce que nous avons vu à l'œuvre avec le renversement de la conception traditionnelle de la démocratie dans la jurisprudence de la Cour suprême au profit de la notion de marché des idées. Apparu sous la plume de juristes comme Justice Holmes, l'assimilation de la démocratie au marché a pu se nourrir, paradoxalement, du New Deal. Le New Deal, en effet, a été porté par la croyance dans une croissance illimitée qui serait une sorte de moteur économique de l'histoire dont l'État social pouvait se servir pour concilier concentration du capital et justice sociale. La dogmatique économique a ainsi acquis la position de surplomb qui est encore la sienne sur la scène juridique. Et cette dogmatique économique confère à son tour une légitimité scientifique à l'assimilation des idées et des croyances à des produits en concurrence sur un marché, et ou alors il faut des conseillers en marketing qui deviennent l'équivalent de la pensée politique. Ou même on va commencer par faire une étude de marché avant de construire son propre discours et sa propre offre politique. Sur cette pente, évidemment, c'est celle sur laquelle nous trouvons aujourd'hui. Dès lors que la sphère du marché absorbe ainsi celle du politique, c'est ce qu'on appelle le marché électoral, celle du sacré, c'est le marché des religions, la figure du citoyen s'estompe au profit de celle du consommateur, et l'éthique de la citoyenneté, qui est faite d'éducation, d'indépendance, dans et par le travail, ainsi que de respect de la vérité, perd toute espèce de sens. Le statut particulier, qui était celui de la parole politique dans toutes les expériences démocratiques, c'est-à-dire d'une parole censée exprimer une certaine représentation du bien public et non la défense des intérêts privés, n'a alors plus de raison d'être. Toutes les paroles se valent a priori sur le marché des idées, et réduire la quantité d'argent qu'on peut y investir serait réduire la liberté de parole. Le sens de la démocratie, dès lors, se retourne. Elle ne désigne plus l'assujettissement de la sphère économique au principe de liberté et d'égalité des citoyens, mais au contraire, l'assujettissement de la sphère politique au libre jeu des lois de l'économie.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 20 janvier 2017 à Nos Supiaux, la démocratie capturée par le marché. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les cours d'Alain Supiaux. Le juriste a co-dirigé avec Pierre Musso « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» acte du colloque de Cerisy publié chez Hermann en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale au Collège de France, « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Plancher, présentation Meryl Moneghetti. Demain, c'est à d'autres mots politiques que nous nous consacrerons avec la conférence d'Eberhard-Kinley sur l'Irak et la Syrie et l'État islamique dans le cadre du séminaire « Culture politique arabe » d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, voici les petits matins. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de France Culture.